Je vous invite à ouvrir votre Bible maintenant dans l'Épître aux Romains. La lettre aux Romains, nous allons continuer cette série que nous avons commencée la semaine dernière. Donc, l'Épître, la lettre aux Romains, nous serons dans le chapitre 1. La semaine dernière, pour ceux qui étaient présents, nous avons examiné les 15 premiers versets. Et aujourd'hui, à partir du verset 16 jusqu'à la fin du chapitre, jusqu'au verset 32, ce sont ces versets qui vont nous intéresser, surtout les quelques premiers, mais c'est vraiment un tout. Et du coup, on va voir cela. Si vous êtes avec moi, avec votre Bible, soit version papier, version numérique. Si vous êtes sur un ordinateur, vous avez peut-être la possibilité de mettre la vidéo d'un côté et puis une page avec la lecture biblique. De l'autre côté, vous pouvez la voir sur votre téléphone. Enfin, voilà. Au moins, si vous avez les paroles donc, de cette lettre devant les yeux, Romains chapitre 1, nous allons commencer à partir du verset 15, le dernier verset avec lequel nous nous sommes arrêtés la semaine dernière. Je vais faire la lecture jusqu'à la fin du chapitre. Romains chapitre 1, verset 15, jusqu'à la fin du chapitre. Suivez avec moi. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'Évangile à vous qui êtes à Rome. Car je n'ai point honte de l'Évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu. Depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en images représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur. Ainsi, ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflés dans leurs désirs les uns pour les autres, se sont enflammés, pardon, dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, pleins d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais encore ils approuvent ceux qui les font. Prions, nous ne pouvons jamais le faire de trop, prions pour mettre ces moments entre les mains de Dieu. Oui, Seigneur, nous sommes devant toi et particulièrement, nous demandons ton aide pour bien comprendre ce passage, ce que toi, tu nous as révélé, mais aussi que par ta grâce et par ta puissance, tu nous aides à mettre en pratique ta vérité au jour le jour, dans les circonstances que tu nous permets d'être là où tu nous places. Et Seigneur, ainsi que toute l'honneur et toute la gloire te reviennent. En ton nom. Amen. Alors, cette deuxième partie du chapitre 1 de cette lettre aux Romains contient beaucoup de choses. Et je crains ne pas pouvoir tout exposer, parler de tout ce matin. On reviendra peut-être dessus la semaine prochaine, parce qu'il y a bien sûr un lien entre le chapitre 1 et le chapitre 2, et ça, il faut en être bien conscient. Mais il y a également, et vous l'avez constaté, un lien entre la première partie, les 15 premiers versets, et à partir du verset 16 jusqu'à la fin. Paul va dire à partir du verset 16, « car ». Donc, il va faire une sorte de liaison. Et au verset 15, que nous avons vu et regardé, examiné la semaine dernière, aussi, si on y revient, verset 15, « j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'Évangile ». Littéralement, ce que Paul dit, c'est « vous évangéliser ». Il emploie le mot « évangile » et c'est un seul verbe en grec, « évangéliser », »,« annoncer l'Évangile à vous qui êtes à Rome ». Et à partir du verset 16, il va répondre un peu à cette question, mais pourquoi ? Qu'est-ce qui pousse Paul quand même à vouloir annoncer l'Évangile aussi bien aux gens sauvés, comme nous avons vu la semaine dernière? L'Évangile n'est pas simplement et uniquement pour les inconvertis, mais c'est aussi pour les gens sauvés. Ils doivent se le rappeler, ça doit avoir un impact dans leur vie aujourd'hui. Mais Paul, à partir du verset 16, va quand même donner un ensemble de raisons et il va en donner deux principales dans les versets 16 et 17. Alors, j'aimerais vous faire peut-être découvrir quelque chose ou montrer quelque chose qui n'est pas trop évident dans la traduction en français. Un ensemble de mots qui, lorsqu'on commence à les comprendre, c'est assez fascinant comment Dieu a dirigé Paul dans ces versets. Alors, au début du verset 16, cette phrase bien connue, je pense la plupart d'entre nous pourraient citer de mémoire ce verset, « car je n'ai point honte de l'Évangile ». Cette bonne nouvelle, Paul dit, « je n'ai point honte ». Et ce petit mot « car », alors c'est un peu, aussi un petit mot en grec, il va revenir 6 fois dans les 4 versets qui suivent. Et en fait, il va revenir 4 fois dans ces 2 versets, versets 16 et 17. Paul est quand même en train de montrer une suite, une certaine logique, et il est important pour nous de suivre cela. Parce que qu'est-ce que Paul dit réellement? Paul dit « je n'ai point honte de l'Évangile ». Et tout de suite, ça doit nous interpeller. Paul, il a un vif désir d'annoncer l'Évangile à Rome, d'évangéliser à Rome. Mais pourquoi? Ben parce qu'il n'a pas honte. Mais on se dit, ça voudrait dire que peut-être d'autres ont honte. Ça sous-entend qu'il est possible d'avoir honte de la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Et quand on commence à réfléchir là-dessus, pourquoi avoir honte d'une telle vérité? Lorsqu'on commence à réfléchir et on commence à examiner la chose, on se rend compte que c'est assez, pas ridicule, je ne veux pas minimiser la chose, mais c'est quand même contradictoire. Parce que Paul va donner un ensemble de raisons, mais déjà, ça vient de Dieu. C'est quelque chose qui vient de Dieu. Et puis, c'est quelque chose qui nous est d'arriver personnellement. Si nous sommes sauvés aujourd'hui, c'est parce que nous avons accepté Christ comme notre sauveur. Ça, c'est la bonne nouvelle. Nous l'avons reçue. Comment avoir honte de quelque chose que nous avons reçu? D'autant plus que nous savons que c'est la vérité. Et Paul dit, je n'ai pas honte de l'Évangile. Ça ne me fait pas rougir. J'ai lu une traduction qui disait, j'annonce sans crainte l'Évangile. Donc, Paul, nous le savons, il allait partout, il annonçait la bonne nouvelle, le salut. Il parlait de son témoignage, il interpellait les inconvertis avec ce message du salut en Jésus-Christ. Il encourageait les chrétiens à se rappeler leur salut, à quel prix ils ont été rachetés. Et Paul dit, je veux annoncer à Rome et aussi ailleurs l'Évangile, cette bonne nouvelle. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas honte. Je n'ai pas honte de cela. Et puis, la phrase qui suit. Car, et vous allez dire, mais Robert, dans ma traduction, si j'ai le second 79, moi j'ai, c'est la puissance de Dieu. Et c'est vrai. Et pourtant, ce petit mot, car, il apparaît dans le grec. Car, c'est une puissance de Dieu. Car je n'ai point honte de l'Évangile, car c'est la puissance de Dieu. Et ici, Paul est en train de dire l'Évangile, cette bonne nouvelle en Jésus-Christ, finalement, ce ne sont pas des paroles inertes, des paroles quelconques, des paroles comme les autres, ce n'est pas une bonne nouvelle comme une autre qui peut être annoncée, une bonne nouvelle comme moi j'ai eu il y a presque deux semaines, bientôt deux semaines, que ma belle-sœur a donné naissance à une petite fille. Alors là, je suis encore tonton, ça a été une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle sera lorsque le confinement sera levé, ça c'est une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle, c'est que, et là, vous mettez tout ce que vous voulez, qu'on n'a plus d'examen à l'école pour les enfants, que voilà, toutes sortes de choses qu'on peut imaginer comme bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle de Dieu, l'Évangile, et bien au-delà de cela, parce que c'est la puissance de Dieu. Et quand on y réfléchit, on a tendance, parce qu'on le sait tellement bien, on a tendance à l'oublier, on a même tendance à minimiser malheureusement. C'est la puissance de Dieu. Mais la puissance de Dieu pour quoi ? Pour faire du n'importe quoi ? Non, la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif premièrement, puis du grec. Le péché, Paul va le montrer dans ce livre, est tellement grave et devant Dieu est une chose tellement horrible que le prix pour ce péché, c'est la mort. Quelqu'un doit mourir. Et pour combler à cela, pour sauver quelqu'un, pour ramener quelqu'un de la fosse de destruction vers laquelle il va, vers la perdition, vers une éternité sans Dieu, il faut la puissance de Dieu. Il n'y a rien d'autre qui suffit. Rien d'autre n'est assez grand. La puissance de Dieu, la puissance divine qui a parlé et le monde est venu à l'existence. Paul va parler de Dieu en tant que créateur dans ce passage, vous l'avez souligné peut-être. La puissance de Dieu. Alors pourquoi Paul, il n'a pas honte ? Parce qu'il sait que la bonne nouvelle est puissante. Si la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ, c'était des paroles comme les autres, s'il n'y avait pas de puissance derrière, oui, on pourrait avoir honte. Les gens, ils auraient raison de croire que on est une secte, on est des gens un peu instable, crédule. On est attaché à un enseignement d'un homme qui a vécu il y a 2000 ans. Et pour certains, disent peut-être qu'il n'a même pas existé. Et le monde aurait raison de dire toutes ces choses et de croire toutes ces choses et de nous regarder comme vraiment des gens bizarres, des illuminés, des crédules, si la bonne nouvelle n'est pas la puissance de Dieu. Mais la bonne nouvelle est la puissance de Dieu. Donc, Paul dit, je n'ai pas honte de cette bonne nouvelle. Je veux l'annoncer parce que je n'en ai pas honte. Et je n'en ai pas honte parce qu'elle est puissante. Et malgré les obstacles ou des objections des gens contre cette bonne nouvelle, comment est-ce que simplement la foi, comme Paul va l'annoncer, peut sauver? C'est quand même assez étrange, c'est impensable. Oui, mais c'est Dieu qui le dit. Et cette bonne nouvelle, elle est puissante pour le salut. La transformation totale d'une personne, que cette personne soit juive ou non juive. Et cela est tellement important pour nous parce que la plupart d'entre nous ne sont pas des juifs. Donc, ça s'applique à nous. Nous, en tant que non juifs, en tant que grecs, comme Paul le dit ici, nous bénéficions de cette bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Mais par cette petite phrase, premièrement aux Juifs, Paul montre, tout comme il va le faire à travers tout ce livre, que le plan de Dieu comprend et intègre toujours le peuple juif. Que Dieu n'a pas délaissé son peuple, comme certains malheureusement voudraient faire croire. Le peuple de Dieu, c'est-à-dire les Juifs, ont toujours leur place dans le plan de Dieu. Dieu n'a pas fini avec Israël. Et Paul va en parler à plusieurs reprises dans ce livre, parce qu'il dévoile un peu le plan de Dieu, qu'est-ce que Dieu fait. Oui, le salut, mais en plus de cela, quoi? Paul va le dire dans ce livre. Mais par cette petite phrase, Paul dit, premièrement aux Juifs, donc Dieu n'a pas fini avec eux. Les Juifs, aujourd'hui, sont sauvés exactement de la même manière que toutes les autres personnes qui acceptent Christ par la foi. Et puis, du grec, Dieu est puissant pour sauver quiconque. C'est vous, c'est moi. Et ce sont nos concitoyens. Ce sont les gens qui nous entourent. Ce sont les gens peut-être avec lesquels nous sommes frustrés. Ce sont les gens peut-être pour lesquels nous avons prié depuis bien des années. Dieu est puissant. Et le salut, la bonne nouvelle en Jésus-Christ, ça, c'est quelque chose de puissant. Et Paul dit, je n'ai pas honte, je vais continuer d'annoncer ce message parce qu'il est puissant. Mais à partir de verset 17, Paul va donner une deuxième raison. Et ceci, c'est vraiment extraordinaire parce que verset 16 et verset 17 sont liés, mais verset 17 et verset 18 sont liés également, et je vais vous le montrer. Alors, parce qu'en lui, et encore une fois, en grec, c'est le même petit mot, car, donc je n'ai point honte de l'évangile, car c'est la puissance de Dieu, et verset 17, car en lui. Alors ce « en lui », dans d'autres lettres de Paul, ça s'applique à Jésus-Christ. En lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ. Mais ici, en lui, nous pouvons remplacer cela par « car dans la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ, dans cette bonne nouvelle est révélée la justice de Dieu par la foi. » Donc, « en lui est révélé ». Alors, je vous invite à souligner ce mot « révélé ». Parce que j'ai dû rigoler un peu chez moi en préparant ceci. Ce mot révélé, c'est le mot d'où nous avons notre mot en français apocalypse. C'est la forme du verbe du mot apocalypse. Et du coup, quelque part, nous pourrions dire, parce que dans la bonne nouvelle, a été apocalypsé. Alors, ce n'est pas un verbe qui existe, mais je l'invente là, mais c'est littéralement ce que Paul dit. Dans la bonne nouvelle, a été apocalypsé, révélé la justice de Dieu. Parce que apocalypse, finalement, ça veut dire à la base, tout simplement, révélation, dévoilement. On le met à l'évidence, on montre pour que tout le monde puisse voir. En lui, dans la bonne nouvelle, est révélée la justice de Dieu. La justice de Dieu, et quand on commence à réfléchir là-dessus, on comprend ce que Paul dit, parce que le péché est tellement grave que cela nous sépare de Dieu et que cela exige la mort de quelqu'un. Soit notre mort, c'est-à-dire une séparation éternelle avec Dieu, ou bien la mort de Jésus-Christ que nous acceptons par la foi. Mais la justice de Dieu doit être satisfaite. Dieu ne peut pas dire « tu es sincère, tu es plutôt bien, tu n'as pas fait trop de péchés, alors je te laisse entrer au ciel, je mets de côté un peu tous les péchés que tu as fait parce que tu as fait tant de bien, tu as été tellement sincère, tu as vécu ta vie plus ou moins bien, tu n'as pas été aussi pire que d'autres. » Et du coup, voilà, ça, Dieu ne serait pas juste s'il faisait cela. Et comme Dieu est juste, la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ révèle la justice de Dieu. Dieu pourvoit à sa justice, c'est-à-dire le péché doit être puni, mais en même temps, la bonne nouvelle en Jésus-Christ nous montre la grâce et la miséricorde de Dieu. Et tout cela de la foi et vers la foi. Alors, c'est littéralement ce que Paul dit. La justice de Dieu par la foi ou venant de la foi et aussi allant vers la foi. C'est la foi individuelle de la personne dans l'œuvre de Jésus-Christ. Et Paul va citer ici au verset 17, un verset dans Habacuc qui sera repris par l'Épître aux Hébreux aussi. Le juste vivra par la foi. Et nous savons que cette bonne nouvelle, si nous l'avons reçue, c'est par la foi. Paul va dire aux Éphésiens plus tard, ce n'est pas par les œuvres qu'on est sauvé, non, c'est le don de Dieu. C'est la grâce, et ça s'obtient par la foi. Donc, Paul dit, je n'ai pas honte de cette bonne nouvelle. Quelqu'un pourrait en avoir honte. Et peut-être par moment, nous aussi, nous avons eu honte de l'Évangile, de cette bonne nouvelle. Nous nous sommes dit, qu'est-ce que les autres vont dire? Qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Est-ce que je devrais parler à ce moment-là et nous avons fermé notre bouche au lieu de parler. Et Paul dit, moi, je n'ai pas honte de l'Évangile, déjà parce que cette bonne nouvelle est la puissance de Dieu et parce que aussi, en cette bonne nouvelle, est révélée la justice de Dieu. Je n'aurais pas pu comprendre la justice de Dieu si je ne connaissais pas la bonne nouvelle. Et c'est la justice de Dieu. Mais je vous ai dit il y a quelques instants que le verset 17 et verset 18 sont liés. Et peut-être vous le voyez, mais je vous le souligne si vous ne le voyez pas. Paul a dit dans la bonne nouvelle au verset 17 et révéler la justice de Dieu. Au verset 18, la colère de Dieu se révèle. C'est exactement le même mot en grec. Verset 17, « En lui est révélé », donc « est révélé ». Verset 18, « La colère de Dieu se révèle ». Donc, le même mot. en grec. Donc, Paul est en train de dire que cette révélation de la part de Dieu vient, bien sûr, à travers la bonne nouvelle présentée en Jésus-Christ par la foi, pour la foi, mais aussi, tant qu'il y a justice, il y a aussi la colère de Dieu. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. La colère de Dieu, c'est quelque chose sur lequel Paul va revenir au chapitre 5. La colère de Dieu n'est pas pour les enfants de Dieu. Nous ne sommes plus sous la colère. Chapitre 5, il n'y a maintenant donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et pourtant, Paul dit, mélangé à la bonne nouvelle, autant il y a la justice, il y a le salut, il y a la foi, il y a la grâce, gloire à Dieu, il y a aussi la colère. La colère pourquoi ? Parce que des gens restent dans la désobéissance. Et ici, on parle bien des inconvertis. La colère de Dieu continue de se révéler du ciel contre toute impiété. Et je réfléchissais sur cette phrase, la colère de Dieu continue de se révéler du ciel. Et il y a un aspect où Dieu est un Dieu en colère. Et il ne faut pas oublier cela. Non pas que Dieu est en colère contre nous, si nous sommes son enfant. Nous ne devons pas craindre Dieu comme s'il était là avec un bâton au-dessus de la tête en train de nous frapper au moindre écart. Non. Et pourtant, Dieu, parce qu'il est saint, parce que Dieu exige la perfection et que Dieu doit juger le péché et que les inconvertis persistent dans leur rébellion et dans leur péché contre Dieu, oui, la colère de Dieu se déverse, se manifeste envers eux. Et dans la suite de ce passage, Paul va montrer que Dieu, il est entièrement juste dans sa colère envers l'humanité. L'humanité inconvertie, encore une fois. Ceci ne s'applique pas aux enfants de Dieu, ceux qui sont sauvés. Mais Dieu est entièrement juste dans sa colère envers l'humanité inconvertie qui persiste dans sa rébellion. Parce que quelqu'un pourrait dire, Dieu, il est injuste. Pourquoi Dieu serait-il en colère? Dieu est amour. Et oui, Dieu est amour. Gloire à Dieu. Il ne faut jamais minimiser cela. Mais Dieu également est un Dieu qui ne peut pas supporter le péché. Et Dieu continue de manifester, de révéler sa colère envers l'humanité perdue. Cela ne veut pas dire que des circonstances, que ce soit des catastrophes naturelles, que des pestes, des maladies, par exemple, comme nous vivons aujourd'hui, sont directement de la part de Dieu. Okay? Peut-être. Mais ça ne veut pas dire que la pandémie dans laquelle nous sommes aujourd'hui est directement un jugement de Dieu sur la terre. Et comprenons bien ceci. On entend parfois des choses à la limite de l'hérésie là-dessus. Mais ce qui est évident, c'est que Dieu est en train constamment de manifester son jugement qui est le moyen dont il se sert pour manifester sa colère envers l'humanité. Et ça montre que Dieu n'est pas indifférent. Autant Dieu s'occupe de ses enfants. Dieu prend soin d'eux, comme nous avons lu dans Matthieu chapitre 6 plus tôt ce matin. Autant Dieu aime ses enfants, prend soin d'eux, les dirige, les protège, leur donne sa grâce tous les jours. Autant Dieu fait cela, autant chaque jour, Dieu, parce qu'il est Dieu, Dieu est en train de juger la rébellion et la désobéissance de l'homme sur la terre. Dieu n'est pas un Dieu indifférent. Dieu n'est pas un Dieu lointain qui permet à l'humanité perdue de faire ce qu'elle veut en disant « je vous laisse libre et puis un jour je reviendrai et puis vous rendrez compte ». Non. Dieu voit ce qui se passe aujourd'hui, Dieu intervient aujourd'hui. Alors, bien sûr, que ceci soit bien compris, un jour, chacun répondra devant Dieu personnellement pour ce qu'il aura fait. Il y aura un jour où on rendra compte. Donc ça, c'est vrai. Un jour, le jugement du grand tremblant, là, les inconvertis répondront devant Dieu pour leurs péchés. Mais en même temps, ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, Dieu dit « faites ce que vous voulez et on verra par la suite ». Non. Pour les inconvertis, Dieu même envoie son jugement, Dieu manifeste sa colère encore aujourd'hui. Et Dieu est juste en faisant cela. Pourquoi ? Eh bien, parce que lui, il est le Créateur. Alors, vous l'avez peut-être souligné, mais j'y reviens. Au verset 25, « Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur. » Dieu, il est le Créateur. Et du coup, il a le droit de faire ce qu'il veut. Personne ne peut lui dire « Mais Dieu, pourquoi tu fais cela ?» Ou « Dieu, tiens, moi, je pense que tu devrais. Dieu, tu n'as pas le droit de… » Non. Dieu, il a tous les droits. Il est le Créateur. Et puis, si on revient au verset 19, « Dieu est juste. » Lorsqu'il envoie, il révèle sa colère. Il est juste non seulement parce qu'il est Créateur, mais parce qu'il se manifeste. Le verset 19, « Ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste. » C'est évident. Il suffit d'ouvrir les yeux et éventuellement, pour les gens qui seraient aveugles, d'écouter. Ou pour ceux qui seraient sourds, par les moyens que Dieu permet de se rendre compte que ce monde autour, il n'est pas le fruit du hasard. Parce que Dieu montre. Et combien de fois, dans des randos, dans des sorties que nous faisons, nous regardons la création autour de nous, on commence à regarder sur Internet des paysages de différents pays et des endroits, et c'est tellement magnifique. Et on se dit, oui, Dieu, il est là. C'est Dieu qui a créé ces choses. C'est évident. Et c'est ce que Paul dit ici. Ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste. C'est-à-dire qu'il y a un Dieu. Ce Dieu, au verset 20, bien sûr, il est invisible. On ne le voit pas, mais on voit ses œuvres. Il est puissant, donc sa puissance éternelle, sa divinité, c'est-à-dire il est au-dessus de nous. Ce n'est pas simplement un surhomme qui a créé toutes ces choses. Non, c'est quelqu'un totalement différent de nous. Donc, sa divinité se voit comme à l'œil nu. Il suffit d'ouvrir les yeux. Depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Dieu est juste lorsqu'il révèle sa colère envers l'humanité perdue, parce qu'il est le Créateur, parce qu'il s'est révélé. Les inconvertis n'ont pas d'excuses. ils savent qu'il y a un Dieu. Et puis, Dieu est juste parce que non seulement il est créateur, non seulement il se manifeste, il le rend évident qu'il est là, qu'il existe, mais Dieu est juste en révélant sa colère continuellement sur la terre parce que l'humanité perdue persiste dans sa rébellion. Verset 21. Car ayant connu Dieu, donc ils savent, il y a une connaissance intellectuelle, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Dieu est juste parce que l'humanité persiste dans son péché et dans sa rébellion. Parfois, ne se rendant même pas compte qu'elle le fait, mais les inconvertis persistent dans leur rébellion contre Dieu. Et du coup, la réponse normale, je pense que chacun dirait, c'est que Dieu, il juge cela, que Dieu intervienne, que Dieu agisse. Donc, Paul, dans ce passage, il va commencer avec la bonne nouvelle. La bonne nouvelle dont il n'a pas honte, qu'il se sent tellement obligé à annoncer. Pourquoi ? Parce que c'est la puissance de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Il n'a pas honte parce que c'est la puissance de Dieu. Et puis, il n'a pas honte parce que cette bonne nouvelle révèle la justice de Dieu, nous montre qui Dieu est. Et puis, Paul dit, Dieu, il révèle, il manifeste sa colère, et cela est juste. Dieu est toujours juste dans ce qu'il fait. Mais finalement, Paul, à partir de verset 24, va souligner un autre aspect de Dieu. Parce que finalement, c'est Dieu qui est au centre ici, ce n'est pas Paul. Dans un sens, c'est la bonne nouvelle, mais seulement parce que la bonne nouvelle nous parle de Dieu. C'est Dieu vraiment qui est en avant ici. Et à partir de verset 24, Paul va nous montrer la patience de Dieu. Au verset 23, bien sûr, ces personnes qui se vantent d'être sages, qui finalement sont fous, ne sont pas sages, sont insensés. Pourquoi ? Parce qu'ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles. Okay. Parce qu'ils ont fait ça, Dieu les livre. Et Dieu les a livrés et il continue de le faire. Et puis au verset 26, parce que l'humanité perdue continue et va encore plus loin dans son péché, dans sa rébellion contre Dieu, c'est pourquoi Dieu les a livrés. Et au verset 28, comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, alors qu'il suffit d'ouvrir les yeux, il suffit de regarder autour, et là on voit Dieu, on s'approche de Dieu. Non, ils ne voulaient pas ça. Donc, Dieu les a livrés. Et toujours, l'humanité va plus loin. Et Dieu dit, d'accord, tu peux. Et je trouve cela extraordinaire parce que ça montre la patience de Dieu. Dieu, au moindre écart, pourrait dire, c'est fini. C'est la dernière chance, là, c'est le péché, c'est la rébellion, c'est la désobéissance de trop. Là, c'est fini, je termine tout. Et il ne le fait pas. Ici, Paul dit, Dieu livre. Il ne détruit pas sur le moment. Ça, le jugement final viendra à la fin. Et ces personnes que Dieu livre à leurs péchés de plus en plus graves vont subir les conséquences de ces péchés, Mais Dieu, quand même, il est patient et leur donne l'occasion quand même de se tourner vers lui. Dieu est patient. Et si Dieu est patient à un tel point avec l'humanité perdue, qui ne se soucie pas de lui, qui ne se soucie même pas de le connaître, de savoir qu'il existe, de savoir qu'il fait des choses, que c'est lui qui tient toutes choses ensemble, que c'est grâce à lui que cet univers tient solidement ensemble. Si Dieu est tellement patient envers des personnes qui le rejettent et qui sont tellement indifférents vis-à-vis de lui, combien plus Dieu sera-t-il patient avec vous et moi si nous sommes son enfant ? Qui, pour la plupart, j'en suis convaincu, cherche à faire la volonté de Dieu, cherche à être agréable à Dieu, cherche à lui obéir, combien plus Dieu sera patient envers nous. Et combien sa puissance va se révéler dans notre vie. Combien plus pour nous. Et lorsque nous réfléchissons à cela, qu'est-ce que ça doit être encourageant dans des moments comme nous vivons en ce moment, cette période du confinement qui s'est prolongée, on commence à voir le bout, les choses restent encore un peu floues, mais voilà, on voit vers le déconfinement à un moment donné et tout. Dans cette période tellement particulière, de savoir que Dieu, il est patient avec nous. Et non pas parce que nous sommes parfaits, non pas parce que nous lui donnons toujours des raisons d'être patient avec nous. Non, Dieu est patient parce qu'il est Dieu. Et Dieu est patient parce que nous avons cru en Jésus-Christ comme notre Sauveur. Et Dieu est patient parce que nous avons bénéficié de cette bonne nouvelle. Et avec cette perspective-là, ne devons-nous pas, nous aussi, avoir l'assurance d'annoncer l'Évangile? Pouvons-nous aussi dire « Je n'ai pas honte de cette bonne nouvelle, parce que je sais qu'elle est puissante, parce que je sais qu'elle révèle la justice de Dieu, parce que je sais qu'elle révèle aussi, dans un sens, la colère de Dieu. Les inconvertis vont passer l'éternité loin de Dieu dans des souffrances terribles s'ils ne se convertissent pas. Mais je sais aussi que l'Évangile, cette bonne nouvelle, annonce la justice de Dieu. Et puis, la bonne nouvelle annonce la patience de Dieu. Dans le livre des Actes, à Athènes, Paul va évoquer la patience de Dieu dans le passé. Que Dieu a été patient avec le péché de l'humanité. Mais aujourd'hui, il appelle tous à la repentance. Et lorsque je réfléchis à la bonne nouvelle, je dois intégrer la patience. Et je dois remercier Dieu pour la patience qu'il manifeste envers moi. Et je dois être patient avec les inconvertis. Si Dieu, lui, il est tellement patient avec les inconvertis, moi, en tant que son enfant, je dois l'être aussi. Je dois voir les inconvertis comme Dieu les voit et comme Paul l'explique ici dans ce passage. Verset 21, ça m'attire et ça me reprend parce que c'est souvent pas comme ça que moi je vois les inconvertis. Ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. C'est une situation terrible. Et c'est la situation dans laquelle se trouvent beaucoup de Français aujourd'hui. Beaucoup de gens qui nous entourent, ils ont une certaine connaissance, mais ils ne se soucient pas de Dieu. Et puis, ils sont comme verset 28, ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu. Non, j'ai le temps, j'ai d'autres priorités, je veux faire autre chose. Et nous pouvons perdre patience, nous pouvons être frustrés et nous devons vouloir le salut de ces personnes inconverties. Mais nous ne devons pas perdre patience. Verset 21, on y revient. Ils se sont égarés dans leurs pensées. Imaginez-vous la situation triste. Et leur cœur, sans intelligence, a été plongé dans les ténèbres. C'est ça la condition des gens inconvertis aujourd'hui. Et si ce n'était pour la grâce de Dieu, dans notre vie, c'est là où nous serions encore si nous n'avions pas reçu Jésus-Christ comme notre Sauveur. Dieu, il est patient avec les inconvertis. Il veut que les inconvertis arrivent à la repentance, acceptent Christ comme leur Sauveur. Mais il est patient. Et combien plus, moi, en tant que son enfant, je dois être patient avec les inconvertis. On n'excuse jamais le péché. Et dans un sens, c'est de leur faute. Ils sont pécheurs, mais nous devons leur annoncer l'espérance en Jésus-Christ, la bonne nouvelle, la puissance de Dieu, sa justice. Oui, sa colère, parce qu'il doit juger le péché, mais aussi sa patience et son amour, son accueil lorsqu'on vient vers lui. Alors, dans la suite de ce chapitre, vous vous êtes rendu compte peut-être que je n'ai pas insisté sur le péché, les péchés auxquels Dieu livre ces différentes personnes. Et il suffit de dire que l'humanité ou l'homme, une personne quelconque qui rejette Dieu, ira toujours plus loin à la fois dans le péché qui le détruit lui-même, qui détruit les autres, qui va complètement bouleverser ce que Dieu, lui, il a prévu pour sa relation avec l'humanité, pour la relation des uns avec les autres. À travers ces versets, Dieu condamne par Paul l'homosexualité, il faut le dire clairement. Nous aimons et nous voulons voir sauver les gens homosexuels, mais c'est un péché et les gens doivent se repentir et quitter ce mode de vie. Donc, Paul, il explique cela, mais je trouve qu'il est, au-delà de parler de ce péché particulièrement, au-delà de cela, au verset 29, on voit qu'il y a aussi toute une longue liste que Paul va dresser d'autres péchés. Certains, nous les trouvons assez graves. Verset 29 étant rempli de toute espèce d'injustice, et ça c'est notre monde, de méchanceté, de cupidité, de malice, on pense à moi et on veut, donc cupidité, tout pour moi, malice, je veux le mal de l'autre, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteur, médisant, donc on parle mal des autres, impie, arrogant, hautain, fanfaron, ingénieur au mal, là ça décrit parfaitement la société dans laquelle nous sommes, société pour laquelle Jésus-Christ est venu, il est mort, et société que Dieu veut voir sauver, mais c'est une réalité, c'est la société dans laquelle nous vivons. J'attire votre attention sur la phrase suivante, « rebelles à leurs parents ». Oh, aïe! Alors là, toutes les autres choses, on sait que c'est très grave et tout, rebelles à leurs parents, les enfants qui pourraient écouter ici, est-ce que vous vous rendez compte que la rébellion et même la désobéissance envers les parents devant Dieu est extrêmement grave? Et voilà pourquoi on insiste sur l'obéissance, parce que pour Dieu, c'est important. dépourvu d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Et puis, verset 32, ils sont hypocrites. En un mot, on peut décrire le verset 32, ils sont hypocrites. Et pourtant, c'est pour ces gens-là, et des gens comme vous et moi, que Jésus est venu mourir. C'est avec ces gens-là que Dieu est patient. C'est avec les gens comme ceux-là que nous devons aussi être patients. Ce sont ces gens-là qui doivent entendre le salut en Jésus-Christ. Ce sont ces gens-là vers lesquels nous devons aller lorsque Dieu nous donne l'occasion. Donc, cette bonne nouvelle qui est pour les inconvertis, nous ne devons pas du tout avoir honte. Parfois, nous en avons. Moi, je reconnais qu'il m'est arrivé d'avoir honte du salut en Jésus-Christ, de ne pas ouvrir ma bouche lorsque j'aurais dû, ou peut-être de ne pas aller aussi loin que j'aurais dû. Mais Paul dit, je n'ai pas honte. Et je ne dois pas rester sur mes manques. Ah, c'est tellement dommage, la dernière fois, je n'ai pas parlé, je n'ai pas annoncé, j'avais honte. Ah, dommage. Je ne dois pas rester là-dessus. Ma prière, ma résolution doit être, Dieu, la prochaine fois, quand tu me donneras l'occasion, je n'aurai pas honte. Parce que je sais que cette bonne nouvelle, elle est puissante. Ce n'est pas n'importe quelle bonne nouvelle. Je sais que cette bonne nouvelle révèle la justice de Dieu. C'est une des meilleures façons de faire découvrir Dieu à quelqu'un. Je sais que cette bonne nouvelle va transformer les vies. Je sais que cette bonne nouvelle m'aide à être patient, m'aide aussi à me rapprocher de Dieu et de remercier Dieu pour la patience et la grâce qu'il me manifeste en Jésus-Christ. Et puis, je suis rempli de compassion et de patience envers les inconvertis. Tout en condamnant leurs péchés et en les appelant à la repentance, je suis compatissant et patient pour les diriger par la grâce de Dieu vers le salut en Jésus-Christ. Et c'est ce que Paul veut nous montrer ici. Dieu, dans son plan, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, avec patience, avec fermeté, parce que c'est la colère de Dieu qui se révèle du ciel, avec patience, en se servant de nous, malgré nos faiblesses, Dieu est en train de propager ce message sur la terre aujourd'hui. Là où vous êtes, ici à Vernon, où nous sommes, chacun dans son coin, Dieu est en train d'avancer ce message, parce qu'il est Dieu. Et lorsqu'on réfléchit à cela, on se dit, peu importe une pandémie, peu importe une incertitude que je pourrais avoir dans tel ou tel domaine, peu importe la chose à laquelle je suis confronté, peu importe la personne que j'ai en face de moi, un membre de la famille, un collègue de travail, un patron, le gouvernement, qu'est-ce qu'eux, ils peuvent faire? Moi, j'ai la puissance de Dieu de mon côté. Moi, j'ai le salut en Jésus-Christ qui est réel, qui est personnel, qui est une des choses les plus grandes dans l'univers. J'ai ça de mon côté. Alors, peu importe, qu'est-ce que les hommes peuvent me faire? Qu'est-ce qu'un virus peut me faire? J'ai Dieu, moi, si je suis son enfant. Donc, Paul dit la bonne nouvelle, qu'elle soit toujours agissante dans notre vie aujourd'hui, tous les jours, bien sûr, mais aujourd'hui particulièrement, dans les jours à venir. Mais nous savons qu'il est tellement facile pour nous d'oublier, pour nous de peut-être manquer d'occasion, soit de mettre ceci en pratique dans notre propre vie ou d'annoncer l'Évangile. Peut-être on manque d'idées pour propager cette bonne nouvelle et on a besoin de l'aide de Dieu. Et cette aide, on la demande dans la prière, comme nous faisons bien sûr chaque dimanche, mais j'espère que vous, vous priez souvent pour demander cette aide de Dieu. Mais nous allons prendre quelques instants maintenant, en ayant vu la parole de Dieu, en sachant ce que Dieu veut en nous, veut nous voir faire, c'est-à-dire ne pas avoir honte, continuer d'annoncer cette bonne nouvelle avec conviction, avec patience, avec amour. Sachant que Dieu veut qu'on fasse cela, nous avons besoin de demander son aide. Prier, nous adresser à Dieu, et c'est ce que nous allons faire maintenant. Je vais prier, et puis de votre côté, là où vous êtes, vous pouvez aussi prendre quelques instants, prier, je prierai, et puis après cette prière, nous chanterons de nouveau pour terminer ce matin. Alors, prions, demandons l'aide de Dieu pour ces choses. Oui, Seigneur, nous te louons pour cette bonne nouvelle, pour tout ce qu'elle est, sa puissance, ce qu'elle révèle, ce qu'elle manifeste. Nous te louons pour qui toi tu es, combien tu es juste, mais aussi combien tu es patient. Merci Seigneur que tu ne nous abandonnes pas à nos propres forces, à nos propres désirs. Tu n'abandonnes pas non plus l'humanité perdue. Tu es toujours présent. Tu as l'œil sur le monde, sur l'univers, sur chacun de nous individuellement. Et Seigneur, nous demandons ton aide parce que nous sommes insuffisants. Nous ne faisons pas toujours ce que toi tu demandes dans ce domaine. Parfois nous avons honte. Seigneur, nous le reconnaissons. Parfois, nous nous taisons, nous manquons d'assurance. Et Seigneur, nous savons que tu compatis. Nous savons que tu sais de quoi nous sommes faits. Sans excuser nos manquements, notre péché, tu compatis. Et Seigneur, nous prions à ce que tu puisses nous donner, jour après jour, même heure après heure, la conviction, l'assurance de propager cette bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Elle est puissante, elle sauve parfaitement quiconque la demande. Et Seigneur, nous te remettons cette journée, ces jours à venir avec toute leur incertitude. Nous avons cette certitude en toi, que tu es là, que tu nous dirigeras. Nous faisons appel à ton aide, Seigneur, et nous savons que cette aide ne faillira jamais. Elle nous soutiendra toujours et nous te remercions d'avance pour ce que tu feras. C'est en ton nom que nous prions. Amen.